Monica, lorsque vous avez présenté le module et les réponses, c'était assez spectaculaire de voir les écarts de taux de réponse selon les pays. Alors, à toi Jérôme, qui en pratique beaucoup, je serais content que tu nous dises si c'est quelque chose qui ne te surprend pas dans le contexte français. Nicolas, qui connaît d'autres enquêtes, comment il lit ça? Et à nos amis de SS, par rapport aux autres modules, est-ce que le module sur la démocratie, en quelque sorte, a fait réagir différemment dans les taux de réponse? Parce que c'est assez spectaculaire de voir cette situation moyenne, en gros autour de 50, Grande-Bretagne, France, si je me souviens bien, un taux à 30 pour l'Allemagne, qui spontanément me surprend assez, et puis des taux beaucoup plus forts pour quelques autres pays à 70. Donc comment vous lisez ça les uns les autres? Jérôme, dans le contexte français, toi qui en fais quasi toutes les semaines.
Oui. Non, mais oui, ça c'est un vrai sujet. Alors en plus, après, on pourrait encore affiner en disant en fonction du mode de recueil. Si on est sur du téléphone, du face-à-face ou du online, on va avoir d'autres taux de réponse qui varient. Et même depuis quelques années, donc on a des études online, hein, mais on fait encore pas mal de téléphone. Et le téléphone, de plus en plus, on fait des interviews sur des mobiles, puisqu'on n'arrivait plus à voir les jeunes, les catégories populaires. Et donc à un moment, on faisait du fixe et on n'avait plus que les gens qui étaient propriétaires de leur maison. Donc on n'avait pas les jeunes, les locataires, etc. Donc à partir du moment, maintenant, à peu près, dans nos enquêtes téléphone, on fait la moitié de portables, appels sur portable, que les gens aient un fixe ou pas, donc la moitié sur du fixe. Et avec le même outil téléphonique, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des taux de réponse pour l'instant qui sont supérieurs sur le portable que sur le fixe. Alors qu'on aurait pu penser intuitivement que ça aurait pu être le contraire, parce que c'est quand même encore plus intrusif d'appeler sur un portable. Et ça marche pour l'instant, ça marche mieux sur le. Donc c'est des choses qu'on suit assez précisément, mais effectivement, on a une érosion du taux. Et est-ce que ça dépend aussi aux cultures nationales ou. Au taux de sollicitation selon les pays, sur l'Allemagne, j'ai pas de réponse. Mais les Américains, qui sont souvent plus avancés que nous sur ces questions-là, eux, s'arrachent encore plus les cheveux, parce qu'il y a des taux de réponse qui sont devenus tout à fait faibles. Mais parce qu'eux, ils y vont quand même. Ils ont une longueur d'avance sur nous et qu'ils ont quand même pas mal pioché dans le cheptel depuis des années et des années, quoi.
Bon, quelques expériences. Moi, je voudrais d'abord rendre hommage à Anne, parce que je crois que c'est la première fois qu'avec la vague 6, donc la première vague qu'Anne organise, que le taux de réponse pour ESS en France est supérieur à 50%, une barre psychologique tout à fait significative. Je ne t'avais jamais fait aussi bien que ça. Ensuite, évidemment, il y a une question de moyens. Alors, par rapport à la tradition française, de toute façon, ESS est complètement un ovni, parce que c'est une des seules enquêtes qu'on ne fait pas sur quota. Et sur, en plus, qui est faite en face à face sur d'autres méthodes que du quota. Donc, quelque part, c'est incomparable par rapport aux autres enquêtes françaises. Mais si on comparait, mon intuition, c'est que le taux de réponse est 2 à 3 fois supérieur dans ESS. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup plus cher, tout simplement. Ça coûte beaucoup plus cher en temps, parce qu'on envoie les enquêteurs sur le terrain pendant très longtemps. C'est des terrains qui font 6 mois, souvent, voire plus. Donc, ça a un impact aussi en termes de qualité de réponse, hein, parce qu'évidemment, les 6 mois, le contexte est différent entre les deux. Ça a un coût en termes de coût de terrain financier qui est absolument significatif, on pourrait dire. Et du coup, bon, tout ça n'est pas comparable. Hein, moi, je dirais qu'un taux de réponse moyen normal en France, autour de 20%, est plutôt signe déjà d'une qualité substantielle de l'enquête. Donc, voilà, c'est quelque part pour ça incommensurable. Et je crois que c'est pour la France, en tout cas, une des grandes qualités aussi de ESS, qu'être une des premières enquêtes hein, de type social à avoir des taux de réponse significatifs. On voit par ailleurs, néanmoins, que ça ne change pas trop les résultats, ce qui est plutôt bon pour le professionnalisme des instituts, parce que fondamentalement, ça change sur certains aspects, mais pas forcément, ça ne bouleverse pas les représentations qu'on a des opinions des Français. Donc je pense que c'est aussi bien d'avoir ce type de benchmark pour finalement conforter l'analyse et la pratique qui peuvent être faites par ailleurs. Ensuite, dans les autres enquêtes que moi je connais ou j'ai pu faire, on a des taux de réponse bien inférieurs, tout simplement parce qu'on a un budget bien inférieur. sur des enquêtes électorales qu'on fait. Alors j'avais fait une enquête par exemple en 2012 électorale face à face, on a un taux de 30% de réponse et on en est très satisfait. On ne peut pas imaginer faire beaucoup mieux. Le budget est, pour le dire clairement, à peu près entre le tiers et la moitié d'une enquête comme ESS pour un échantillon une fois et demie plus grand. Donc, mécaniquement, et ça, c'est un des grands débats qui est récurrent, notamment avec d'autres équipes universitaires en France qui font des sondages sur savoir dans quelle mesure l'argent, bien sûr, permet une augmentation de la qualité, mais à quel prix est-ce que l'augmentation de la qualité est valable par rapport au prix nécessaire que l'on met dedans. Et mon argument a toujours été que c'est très bien d'avoir au moins une enquête comme ça, pour voir valider et comparer, mais qu'après, évidemment, peut-être que ça ne ferait pas sens d'avoir des enquêtes aussi exigeantes méthodologiquement dans tous les cas, parce que sinon, on ne fait plus d'enquêtes, tellement elles seront chères. Donc voilà, c'est un peu la vision nuancée que j'aurais.
Oui, c'est important. Monica, qu'est-ce que vous dites sur ces écarts, strictement sur le module
sur Rory.
Ah, Rory.
Yes, thank you. Just in terms of the cost, maybe it's a little bit more expensive for each country compared to a normal national survey, but of course you invest in your own survey and you get 29 data sets to compare to in other countries. So in fact it turns out it's a very, very good value for money, but perhaps I would say this. In terms of the response rate in some countries, they have been going down, and you noted Germany in particular, and there's some real difficulties there. But in other countries, in Spain, over the rounds, the response rate has actually been increasing. It started in round one at about 58%, and it's now nearly 70%. And that actually, in many ways, just reflects sort of the sort of hard work and good practice of the team there, like we heard here from Anne as well. So it's not that response rates everywhere are going down, and even in some, the countries that have a very long survey tradition, the response rates are actually increasing a bit. So. Not always reasons to be gloomy, and certainly no evidence at all that having this topic in the survey led to more people dropping out. There were particular items that respondents couldn't answer, but we didn't get lots of people perhaps saying, I don't want to continue with the survey, which we were concerned about. It would be very interesting to see whether or not the results would be the same, for example, on the online panel that Anne's been working on. I don't know if this is one of the question topics you're thinking of including, but it would be interesting perhaps to see if the mode of interview makes any difference. Yeah.
Juste une toute petite addition aussi sur la comparaison en termes de taux de réponse entre les pays par rapport à l'intensité de la sollicitation. Dans mon opinion, je ne crois pas que l'intensité des sondages en face à face soit absolument clé. Autant pour les sondages en téléphone, c'est un vrai problème. Oui. Autant les sondages de
opinion,
la probabilité d'interview
interviewer
une fois tous les 10 ans est déjà faible. Donc je ne pense pas que ce soit le fait que les gens soient sollicités continuellement. C'est là qui explique les différences. À mon avis, même si ESS est parmi les meilleurs en termes de méthodologie, la comparabilité des taux de réponse, pour le dire de manière consensuelle et peu polémique, me pose toujours problème, et j'aimerais bien toujours voir plus sur le terrain les pratiques différentes des instituts pour comprendre mieux exactement ce que signifie un 80% en Russie ou en Albanie contre un 50-60% en France.
Oui, oui, parce que les écarts sont très importants. D'où ma question. Il y a du 70-30 en gros. Aux extrêmes 80-20, 70-30 pas mal et 60-40 beaucoup. Donc ça fait des écarts considérables. Ils sont tous, les échantillons nationaux sont des tailles différentes ?
Oui. Oui. En Allemagne, il est plus grand, par exemple.
Yes, the target is that each country should have an effective sample size of 1,500 cases. Achieved interviews at the end. So if you're in a country that's using a simple random sample, then it's 1,500 cases that you have to achieve at the end. But the more complicated your sample design has to be, the more clustering there is in the design, the higher the gross sample that you have to start out with. So, for example, in Germany, in this current round, they have to start out with sort of 7,000 cases that they have to work with, whereas in the Netherlands, it's closer to sort of 3,000 that they start with. So there are big differences in the amount of effort that's required. And partly, of course, reflects the geography of the country.